de ce bulletin d'information, Mohamedou Oumfa, j'étais ravi de vous le présenter. Continuez d'écouter VOA Afrique, l'info sur 24 sur 24 sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes et à tous. Une fois encore, on se retrouve pour parler du sport sur VOA Afrique. Élisée Rompati devant ce micro. Ce soir, nous allons parler de cette affaire qui éclabousse la CAF. Ahmad Ahmad vient d'écoper de 5 ans de suspension au motif de détournement de fonds. Et de 3, la Gambie n'a pas bonne presse en matière d'hospitalité. La CAF doit prendre ses responsabilités. Enfin, la finale de la Ligue des Champions CAF. Le vendredi prochain, on assistera au derby du Caire entre Al Ahly et Zamalek. Nos consultants sont toujours au rendez-vous. J'ai salué à Casablanca, au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
En direct depuis Columbus dans l'Ohio, nous saluons Amédine Si. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, on ne le présente plus, lui, c'est Lawal Dimkosuro, toujours à côté de moi dans ce studio. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Bienvenue sur Sporama. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans l'actuel président de la CAF et à 185 000 euros d'amende, notamment pour détournement de fonds. Amine Birouk, coup dur pour le Malgache qui avait manqué à son devoir de loyauté.
C'est certainement un coup dur pour le président malgache de la CAF. C'est aussi un coup dur pour l'institution, pour la Confédération africaine de football. On espérait en 2017, au moment de la passation de pouvoir entre Issa Hayatou et Ahmed Ahmed, qu'il y aurait une nouvelle ère où la jeunesse, la rigueur, le respect du fair play et l'intégrité seraient les signes avant-coureurs d'une réforme structurelle du football africain via une institution au service du football et de la jeunesse africaine. Malheureusement, nous nous retrouvons dans ce cas de figure. On parle de manque de loyauté, de corruption, de cadeaux, de l'affaire Technical Steel ou Tactical Steel qui a certainement plombé le mandat de Ahmed Ahmed à partir de 2018. Et aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un long process où la CAF a été scrutée de toutes parts par la FIFA depuis l'arrivée de Fatma Samoura. Il y a eu de multiples rebondissements, de multiples épisodes. Et je n'écarte pas que d'autres membres de la Confédération africaine de football soient impliqués, voire sanctionnés dans les prochaines semaines.
Lawal, la décision a été notifiée à Ahmad Ahmad ce lundi même, date à laquelle l'interdiction est rentrée en vigueur. Fragilisé par plusieurs polémiques, il perd vraisemblablement ses problèmes de gouvernance.
Oui, Élisée, les problèmes de gouvernance sont passés par là. Et on s'attendait à une telle décision. D'ailleurs, ce qui est peut-être un peu décevant, c'est qu'on l'ait suspendu juste pour 5 ans. Et il s'attendait, il savait que ça allait se passer ainsi, mais il a voulu faire la politique de l'autruche, ne rien voir, ne rien entendre. Aujourd'hui, la décision lui a été notifiée. Mais ce qui me semble important, Élisée, c'est qu'on ne peut pas suspendre Ahmad Ahmad tout seul parce qu'il est dans une équipe. On devrait peut-être voir un peu plus loin.
Malheureusement, c'est le cas.
Oui, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, ça... Les cartes seront rebattues par rapport à 2021, par rapport à cette élection-là. Et aujourd'hui, ça ouvre les portes, ça ouvre des boulevards à tous ceux qui aspiraient à être candidats. Et pendant qu'on déposait les dossiers, on a senti qu'il y a certains qui peut-être ont déposé les dossiers pour être le plan B de Ahmad Ahmad au cas où il serait suspendu. Voilà, aujourd'hui, il est suspendu définitivement, en fait, pour 5 ans, du moins.
Définitivement pour les élections.
Pour les élections, en tout cas, pour les prochaines élections.
Ouverts.
Les jeux sont maintenant grandement ouverts et c'est des autoroutes que les autres ont pour peut-être aspirer à être président de la CAF.
Lawal, cette suspension est un signal fort adressé aux prochains dirigeants de cette instance.
Oui, Élisée, elle est peut-être venue un peu tard, parce qu'on a connu par le passé des scandales de corruption et tout le reste à l'issue de quelle personne avait été suspendue. Aujourd'hui, il est important qu'au niveau de la maison du foot, que les gens puissent venir, non pas pour des intérêts, mais pour véritablement gérer de façon optimale les choses afin que le foot africain puisse prendre de l'envol.
Parce qu'aujourd'hui, la CAF a
besoin des hommes intègres pour gérer les choses. Et aujourd'hui, on a bien l'impression que les gens y vont beaucoup plus pour autre chose que pour gérer de façon catholique le foot africain.
Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022 se sont jouées du 11 au 17 novembre dernier. À deux journées de la fin, les premiers qualifiés comme les premiers éliminés sont connus. On prend la direction de Casablanca pour retrouver Amine Birouk. Alors, après le Sénégal, premier pays qualifié, l'Algérie tenante du titre et la Tunisie ont aussi composté leur billet.
Tout à fait, Élisée. L'Algérie et la Tunisie ont réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la CAN. Les Algériens ont réussi à ramener un précieux nul d'arrêt au Zimbabwe, même s'ils ont mené 2-0, ils se sont fait rejoindre. Quelques points d'interrogation sur cette équipe qui s'est un peu relâchée. On a même eu l'impression que pendant le match, ils se sont endormis sur leur laurier. Les Tunisiens ont réalisé un match solide à Darussalam, et donc un match nul à but partout est venu couronner leur parcours quasiment sans faute. Ils passent donc à cette fête du football africain. Puis il faudrait signaler que d'autres pays d'Afrique du Nord, notamment le Maroc, se rapprochent de la qualification. Le Maroc, après son succès 2-0 à Douala face à la Centrafrique, n'a plus besoin que d'un point pour pouvoir composter son ticket. Et puis signalons aussi le sursaut de l'Égypte qui a réussi le plein de points face au Togo. Une victoire plus étriquée au Caire et surtout un succès à Lomé sur le score de 3-1.
À Médine, si le Mali, 4e pays qualifié, monte en puissance. Après un nul inaugural, il a signé 3 victoires en 3 matchs.
Tout à fait, Élisée. Le Mali qui a démarré ses éliminatoires avec un match nul est monté en puissance en enchaînant 3 victoires de rang. La dernière en date a été acquise en déplacement en Windhoek face à la Namibie sur le score de 2-1. Ce succès permet d'ailleurs non seulement aux Aigles d'occuper le fauteuil de leader du groupe A avec 10 points devant la Guinée, mais il permet aux Maliens de composer leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 prévue au Cameroun. Il faut dire, Élisée, que le Mali dispose d'une jeune équipe, mais très talentueuse. Hein. D'ailleurs, la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc, il faut compter sur cette équipe malienne pour cette grande messe du football africain élevé.
Lawal, certaines équipes comme la RDC se sont rassurées. Le Bénin aussi, et il aura désormais son destin en main.
Oui, Élisée, il faut dire que la RDC, après 3 matchs nuls, a réussi à avoir 3 points finalement, et les Léopards se relancent, c'est important. Le Bénin a raté, franchement, quelque chose d'important, parce que là, le Bénin pouvait prendre la tête du groupe L et surpasser le Nigeria, mais ça n'a pas été. Mais il faut reconnaître que les écureuils ont encore leur destin en main.
Si tu veux battre le Nigeria lors de l'avant-dernière journée et signer complètement sa qualification.
Battre le Nigeria, ça va être peut-être compliqué, mais la Sierra Leone à domicile, c'est ça le plus probable, il faut le dire. Donc les Béninois ont encore une chance de se retrouver au Cameroun en 2022.
Le Burkina aussi a désormais son destin en main après son nul blanc au Malawi. Il suffit simplement de battre le Soudan du Sud lors de l'avant-dernière journée et valider définitivement son billet.
Et c'est la petite équipe du groupe, le Soudan du Sud,
qui a battu l'Ouganda.
Ouganda, Soudan du Sud, c'est du pareil au même, on va le dire comme ça. Mais fondamentalement, il est important de relever que certaines équipes qu'on pensait assez petites ont commencé pas véritablement émerger. Mais le plus important, c'est que les équipes qui sont habituées à la CAN ont commencé par fléchir, et puis les autres qui veulent venir à la CAN.
Il y a un nivellement de valeur.
Oui, il y a un nivellement des niveaux, et ça se passe, et c'est pour le bien du foot africain, Élisée.
De son côté, Lawal, après avoir raté la CAN 2019, le Togo sera encore absent de l'édition 2022.
ce que fustige notre confrère togolais Steven Lavant du site Africa Top Sport.
Forcément que ça passe mal, ça passe très très mal d'ailleurs, parce que comme vous l'avez dit, le Togo a déjà raté la CAN 2019, une CAN qui s'est jouée à 24 équipes, et le Togo va rater sa deuxième CAN consécutive, encore une fois avec 4 équipes. Vous savez, ça faisait un bout de temps que le Togo n'avait pas raté de CAN consécutive. Depuis quasiment, on va dire, la CAN 98, le Togo n'avait plus raté de deux CAN consécutives. Il ratait toujours une CAN sur deux. Mais là, ça fait beaucoup, donc ça fait forcément mal. Et puis, la manière dont les choses se sont passées, bien évidemment, ça fait encore plus mal. On a l'impression que, bon voilà, le sélectionneur a perdu la main sur son groupe et qu'il essaye des choses, mais ça ne marche pas, il persiste dedans. Donc voilà, c'est compliqué.
Déception totale pour les voisins togolais éliminés très tôt, comme prévu.
Non, pas comme prévu. Bon, le match...
Cette double confrontation contre
l'Égypte, c'est ça qui a cramé toutes les chances des Togolais. Et c'est une déception pour nous autres béninois de voir les Togolais ne pas aller à cette CAN, parce que pour la première fois on a sorti les Togolais quand même. Ils étaient à une Coupe du Monde, le Bénin n'y est jamais participé.
Cette fois le Togo a un bon effectif
et tout le reste, mais il faut dire que le Togo a eu le malheur de se trouver dans un groupe assez relevé. Pas comme d'autres pays où les choses se passent aussi bien. Et si le Togo n'a pas réussi à saisir sa chance, je ne vais pas dire que c'est à cause de Claude Leroy, non, mais lui, il s'est satisfait des défaites, des mecs honorables et tout le reste.
Justement, on l'écoute.
Moi, je donne rendez-vous après le sixième match, où là, bien évidemment, si on n'est pas qualifié, ça sera la fin de mon aventure togolaise. Bien évidemment, puisque ça sera la fin, ça sera la fin de mon contrat, logiquement. Donc, il n'y aura même pas à revenir là-dessus.
Vous avez compris quelque chose ?
Alors, Élisée et Claude Leroy, je ne dirais pas, il me fait marrer. Il sait déjà qu'il est éliminé, il sait déjà qu'il a fini son aventure au Togo. Il n'a qu'à commencer par envoyer son CV ailleurs pour qu'on lui trouve autre chose. Il le sait et il demande à ce qu'on lui permette d'aller au sixième match. À sa place, je me tairai. Il s'est pas tu, il n'a pas saisi l'occasion de se taire, il a dit ce qu'il a voulu dire, parce que dire autre chose serait donner l'opportunité à la Fédération togolaise de résilier son contrat tout de suite, alors qu'il n'est pas prêt pour ça.
Amine, on revient vers vous. Encore raté pour le Tchad, Kikou, derrière sa première qualification à une CAN.
Encore une fois raté pour le Tchad, mais il faut dire que les Tchadiens n'étaient pas dans un groupe facile, avec le Mali et la Guinée qui semblaient largement au-dessus du lot, et puis une sélection namibienne qui a disputé la dernière CAN. Les résultats des Tchadiens ne sont pas encourageants, et il faut dire aussi que c'est un des rares pays africains à ne pas avoir réussi déjà à disputer une seule phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que la barre était trop haute face à une équipe malienne qui a réussi à composter son ticket pour la prochaine CAN. Et une sélection guinéenne qui est en passe de le réaliser. Ça devrait se faire lors de la prochaine journée. En tout cas, un groupe difficile, voire impossible pour les Tchadiens. Conséquence, une nouvelle élimination.
Et puis, le Gabon maintient toujours ses chances de qualification malgré sa défaite 2-1 en Gambie. Seulement que les Panthers ont connu une veille de match affreuse. Ils ont été bloqués à l'aéroport par les autorités gambiennes et ont dû dormir sur place à même le sol. De retour à Libreville, le président de la fédération, Pierre-Alain Mongengui, au cours d'un point de presse, a confirmé avoir saisi la CAF. On l'écoute.
Nous avons été accueillis en émoi. La preuve, c'est que la fédération gambienne de football a envoyé un officier supérieur de l'armée gambienne, général vice-président de la fédération gambienne de football, pour venir terroriser, traumatiser les joueurs de notre équipe nationale. Et notre équipe nationale est donc restée à l'aéroport sous les malheurs de ce général de 22h45 à 6h30. L'hôtel étant situé à 45 minutes plus de l'hôtel, de l'aéroport, notre équipe nationale est effectivement arrivée à son hôtel aux environs de 7h30 pour une équipe qui doit jouer à 16h et qui n'a pas d'heure. Le football, c'est un sport qui se joue avec beaucoup d'intensité. les représentants de la CAF ont promis, naturellement, de prendre des sanctions qui s'imposent vis-à-vis de ceux qui ont tort. La CAF a commencé, naturellement, par dire aux Gambiens que ce qui s'est passé n'était pas digne de notre continent.
Amédine, pourra-t-on dire que la Gambie a agi sciemment afin d'affaiblir les joueurs gabonais?
Élisée, je ne sais pas si la Gambie a agi sciemment afin d'affaiblir son adversaire, mais je sais que ce qui s'est passé à l'aéroport de Banjul est inadmissible. Rien ne peut justifier un tel comportement. Je pense que les responsables de la Confédération africaine de football doivent quand même sévir sévèrement contre les Gambiens parce qu'ils n'ont pas le droit de faire subir à une délégation du Gabon ce genre de traitement. C'est inadmissible, c'est anormal. On ne peut pas quand même prétexter du Covid pour avoir ce genre de comportement. On est en Afrique, il faut la libre circulation des personnes, mais également des biens, surtout pour une équipe nationale, une délégation officielle. Même en temps de Covid, on sait que si quelqu'un se déplace, il n'a pas les tests, on l'isole pour pouvoir faire des tests, mais on ne peut pas comme ça prendre une délégation comme le Gabon, les mettre à l'aéroport, ils ont dormi à la Belle Étoile, c'est inadmissible. La CAF doit sévir et sévir pour que cela ne se passe plus en Afrique. C'est anormal, inadmissible. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Plus jamais ça, Élisée.
Amine, selon le ministre gambien des Sports, les Gabonais ont refusé de présenter le test Covid-19 et n'ont pas accepté se faire tester à l'aéroport. Est-ce une raison pour agir de la sorte?
Ce qui s'est passé à Banjul est incompréhensible. Comment imaginer une sélection nationale comme celle du Gabon, bloquée à l'aéroport par les autorités gambiennes, obligée de dormir sur place à même le sol, la veille d'un match aussi crucial? On comprend l'indignation des dirigeants gabonais, on comprend aussi qu'ils aient saisi au cours d'une conférence de presse la CAF, mais ça en dit long aussi sur cette guerre des nerfs, cette guerre psychologique qui peut, à la veille de chaque confrontation continentale, apparaître. Après, bien évidemment, est-ce que les autorités gabonaises ont respecté les protocoles du Covid-19? C'est une interrogation qu'il faut légitimement se poser, d'autant plus qu'il y a des règles sanitaires très strictes en ce moment qu'il ne faudrait juste pas outrepasser. Si cette sélection n'a pas respecté les prescriptions sanitaires, elle aurait pu rester dans l'avion. Au moins, on aurait pu éviter que les joueurs descendent en zone internationale et se retrouvent obligés de dormir parfois même le sol. Franchement, cette incompréhension entre les deux parties pose de très nombreux points d'interrogation. À la CAF de se saisir définitivement de ce dossier, de tirer les choses au clair et d'éviter que lors des prochaines journées des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde, pareilles mésaventures ne se reproduisent.
Lawal, avant le Gabon, des pays comme l'Algérie ou encore le Bénin ont déjà dénoncé le traitement réservé par les Gambiens à leurs adversaires.
Oui, et c'est là que j'ai apprécié votre titre. Et de trois. Ça fait la troisième fois que les Gambiens font la même chose. Et la CAF est là, elle ne dit rien. C'est ça qui est surprenant. On ne peut pas concevoir que dans ces conditions, les gens ont parlé de coronavirus aujourd'hui, mais pour l'Algérie, pour le Bénin, ce n'était pas le coronavirus, mais les Béninois ont souffert.
Véritablement.
Électricité.
Il n'y en a pas,
il y en a pas eu.
De temps.
De l'eau. Pour se laver pendant deux jours, 48 heures, et ça, les Gambiens sont là, ils sont coutumiers du fait, et puis la CAF ne dit rien. Il y a un problème à ce niveau-là. Il faut que la CAF puisse prendre ses responsabilités, sanctionner s'il faut le faire.
La CAF a déjà annoncé avant le match qu'elle va enquêter sur cette affaire.
Non, Élisée, les autorités à la CAF ne prennent pas les choses comme elles doivent les prendre. Et c'est malheureux pour le foot africain. Vous n'allez pas entendre qu'en Europe, que les trucs du genre se passent, où on ne reçoit pas correctement. Non. Et c'est maintenant que la CAF veut enquêter. Non, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Et Ahmad elle doit pouvoir, avec ses
collaborateurs,
prendre une décision pour régler ce problème-là définitivement.
Merci Lawal. Il faut dire que 48 matchs se sont déroulés pour un total de 105 buts inscrits. 4146 tests Covid-19 ont été effectués, dont seulement 48 se sont révélés positifs, soit 30 joueurs et 18 officiels. Amine, finalement, le plan de reprise du jeu mis en place par la CAF a été une réussite.
Tout à fait, Élisée, un protocole sanitaire pointu avec des dispositions qui ont permis à toutes les rencontres de se dérouler sans accroc.
c'est une façon de dire qu'il y a des compétences à la Confédération africaine de football, que tout a été étudié, scruté, analysé de façon à ce que la santé soit également en première ligne. Et évidemment, aujourd'hui, on peut que nous féliciter de ce genre de disposition. J'espère qu'elles se rééditeront et que lors des prochaines journées, nous aurons moins de cas positifs aussi et que toutes les rencontres pourront se dérouler et arriver à bon port. Autant dire que la Confédération africaine de football et la Commission médicale ont bien travaillé et qu'aujourd'hui, elles recueillent ou elles cueillent les dividendes des efforts qui ont été fournis pour qu'il y ait un protocole sanitaire bien en place.
Amédine Sy, pour finir cette éliminatoire en mars prochain, une condition sanitaire optimale s'impose.
Tout à fait, Élisée. Je pense qu'il faut le faire et les responsables du football africain l'ont fait. Je pense qu'il faut maintenant redoubler d'efforts et renforcer les mesures sanitaires pour les journées qui sont prévues au mois de mars. J'en profite pour féliciter quand même le personnel de la santé, mais également les responsables du football africain, les dirigeants, quand même, ils ont été vraiment à la hauteur pour ces troisième et quatrième journées. J'espère qu'au mois de mars, on va encore redoubler d'efforts, Élisée, pour que les matchs se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Le Sénégal organise depuis le vendredi dernier le tournoi qualificatif de la zone UFOA-A de la CAN des moins de 20 ans. Une compétition qui va durer 10 jours et permettra aux vainqueurs de se qualifier pour la phase finale prévue en Mauritanie. À Thiès, pour ce tournoi qualificatif, les organisateurs ont pris les dispositions nécessaires en ce temps de coronavirus. Mam Adamandou, le président du comité d'organisation, l'explique.
Ce tournoi qualificatif se jouera à huis clos, ici à Thiès. Nous allons tout faire pour minimiser le nombre de personnes qui entrera dans le stade. C'est vrai que nous sommes dans une situation de pandémie. Il faut noter aussi qu'il faut qu'on respecte les mesures barrières. Nous sommes invités par la CAF mais aussi par le Sénégal. Cela, nous devons faire des tests d'avant-match et durant la compétition et après. C'est la CAF qui finance ces tests.
Amédine, tout a été bien planifié pour les 10 jours de compétition.
Tout à fait, Élisée. Comme l'a dit le président du comité d'organisation local, Mam Adamandour, tout a été planifié pour les 10 jours de compétition. D'ailleurs, les choses avaient bien démarré avec le match inaugural. Le Sénégal qui a été tenu en échec par la Sierra Leone sur le score d'un but, partout. Mais il y a eu un cas, il y a eu des cas, je devrais même dire, avec la délégation malienne. Ils ont eu 15 cas, hein, 15 cas. D'ailleurs, le Mali a perdu son match face à la Guinée-Bissau. Cela pour vous dire que le Covid est là. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour que la compétition puisse aller à son terme. C'est vraiment regrettable pour les Maliens, mais c'est comme ça. On est dans une situation très difficile, dans un contexte extrêmement difficile, mais la santé doit primer sur tout. Hein. Donc, il faut continuer à faire des tests. S'il y a des cas, on n'a qu'à déclarer l'équipe forfait. S'il n'y a pas de cas, on joue les matchs. En tout cas, c'est regrettable, mais la compétition se poursuit. Élisée, au Sénégal, au stade La Dior de Thiès.
Lawal, après la défection du Togo pour la zone UFOA-B, le tournoi a été reprogrammé au Bénin du 5 au 20 décembre 2020.
C'est heureux pour les Béninois de recevoir un tel tournoi. Maintenant, on n'a que deux stades fondamentalement.
Est-ce qu'on a deux stades aujourd'hui encore au Bénin?
Le Bénin, pour l'heure,
avant
le 5 décembre, aura un seul stade, le stade de Gaulle de Porto Novo, un tournoi dans ces conditions à Porto Novo. Bon, si les autorités du ministère des Sports estiment qu'il faut prendre le tournoi, bien à eux, mais ça fera une publicité pour le pays en tout cas. En attendant mars 2022 pour la qualification, on l'espère pour les écuries d'ailleurs, ce tournoi va mettre sur orbite le foot africain ou ouest-africain et ça permettra au Bénin quand même.
Le Bénin doit viser la première place puisque c'est la seule place qualificative pour la phase finale de la CAN.
Le Bénin a ceci de particulier que si le tournoi se joue ici et qu'on ne prépare pas ce qui doit être préparé parce que rappelez-vous, on a un championnat Rien ne se prépare.
Mathias Tegueno est attendu alors.
Il n'y a rien qui soit fait. On dit qu'on a sélectionné pour les U17 et tout le reste. Mais fondamentalement, comment ça se prépare? Les équipes qualifiées pour les compétitions de club se préparent comme ça. À la, je ne sais pas comment il faut le dire.
On est habitué au Bénin.
Voilà. Donc c'est triste pour le Bénin, mais... On espère que cette compétition va permettre au moins aux gens de prendre conscience de ce qui doit être fait pour que le foot béninois puisse prospérer.
Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
Sporama, c'est fini. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.